21, cours de Raveman Shir HaShirim, lundi 6 juillet 1998 à Montevideo.
Alors, ça fait suite au verset précédent qu'on a déjà vu pour la deuxième fois. Ishbat yetrem velo tchoushalaim tzu et dodi matagidu shekhola tavani. Ça veut dire que tout ce qu'a enduré le peuple juif dans la galoute, c'est à cause de son amour pour Akadosh Baruch Hu. Et non pas le contraire. Ça veut dire que la punition elle-même, elle n'a de sens que pour arriver à un certain point. Madoder Midot. Là commence le grand problème. Les Benot Yerushalayim, les peuples de la terre qu'on appelle filles de Yerushalayim, parce qu'un jour elles se retrouveront à Yerushalayim.
C'est oui.
Oui, les peuples de la terre. Lorsqu'ils répondent au peuple juif, ils lui disent « Madoder Midod ». Qu'a de spécial ton ami parmi les amis ? Hayafa Banashim, toi qui es la plus belle d'entre les femmes. Madoder Midod, Shekacha Ishbatano. Pour que tu nous conjures de cette façon. On a vu dans le verset d'avant, Shekacha Ishbatano. Tu nous as fait jurer de témoigner en ta faveur que tous les Yissourim, tous les tourments qui seront le lot du peuple juif, c'est à cause de son amour pour Dieu. Sinon, le peuple juif n'a aucune raison d'encaisser tout ce qu'il encaisse. Donc, les peuples répondent au peuple juif, « Ok, Madoder Midod, est-ce que ça vaut la peine ? Qu'y a-t-il de spécial ? Madoder, en quoi ton Dieu Midod ?» est différent des autres dieux, Shekacha Ishbatanu, pour que tu en arrives à cela. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit tout ce que je souffre, c'est pour mon amour pour Akadosh Baruch Hu, il faut que ça vaille la peine. La réponse est Madoder Midot. Ça veut dire que c'est les peuples qui donnent l'occasion au peuple juif de définir ce qu'il a trouvé de spécial par rapport aux autres. Et le peuple juif répond, Dodi, Tsar ve'adom, Dagul mervava. Attention. Dodi, mon ami, Tsar. Tsar veut dire en hébreu propre, blanc. Non, blanc. Ve'adom, ça veut dire rouge. Dagoul, ça vient du mot dégel. Dagoul veut dire quelqu'un qui est remarqué. Remarquable, remarqué. Dégel, c'est le drapeau. Singularisé. Merevava, parmi Revava, c'est les dizaines de milliers. Donc si on traduit littéralement, Dodi, mon ami, Tsar ve'adom, et blanc et rouge, Dagul mervava, il se singularise parmi les dizaines de milliers. Rashi dit, Afaresh Trila Kola Inyan Nufi Pshuto, je vous expliquerai d'abord, selon la traduction littérale, le Kilus Noi Bacho Shu Lavan Upanav Admoniot. C'est-à-dire quelqu'un qui a la peau blanche, une belle peau, Panav, et dont la face, Admoniot, tend vers le rouge. Ça veut dire, il est blanc, mais il n'est pas pâle. Dagul mervava et Rashi nigdal distingué bechayelot arbe rabbi mechayelotav. Parmi les dizaines de milliers, puisque revava, c'est employé ici comme le pluriel de revavot, revavot arbe, beaucoup de myriades, il se distingue parmi même beaucoup de myriades. On dirait nous parmi tous. C'est difficile de comprendre quelle est cette réponse. Tu demandes au peuple juif, qu'est-ce que tu as trouvé qui vaille la peine de souffrir ce que tu souffres? Et il répond, parce que Dodi, mon ami, il est rouge et blanc. Ou il est blanc et rouge. Dagul Mervava, il est distingué de tout. On va essayer de comprendre. On a dit il y a une quinzaine de jours, je crois. On va essayer d'expliquer, on va essayer de revoir ce Inyan. Il existe dans les Chazal une désignation de ce qu'on appelle les Olamot, les mondes. Cette désignation, dans sa façon la plus simple, distingue d'abord deux mondes. Le Olam HaAsiya, le monde de l'action, et le Olam HaYetzira, le monde de la formation. Le Olam HaYetzira, pour nous c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de comprendre. Ça fait allusion à un verset de la Torah, Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Dieu a créé, on prend le mot Yotzer, Yetzira. Comme on dit tous les matins, Yotzer Or, Uvor et Rochef. Au-dessus, il y a encore un monde qui s'appelle Olam Abria, mais qui ne concerne pas pour l'instant. Nous, on va simplement comprendre Olam Asiya et Olam Yetzira. Olam HaYetzira, ça ne veut pas dire que un homme se meut dans des mondes différents, mais qu'il existe deux notions qui sont claires chez l'homme. La première, c'est qu'il a un contact avec l'extérieur qu'il établit à travers ses cinq sens. Il existe encore un autre contact avec l'extérieur qui n'est pas établi à travers les cinq sens, mais qui est établi, on dirait, d'une façon fondamentale. On appelle ça le anochi, le moi. Ça veut dire que un enfant, déjà, a des notions qui sont des notions de justice. Il a des notions qui sont des notions de régularité. Il a des notions qui sont des notions de clarté. Elles ne lui viennent pas de ses cinq sens. C'est de cette façon qu'on comprend le verset où Shlomo HaMelech dit Haelokim bara et Adam Yachar. Dieu a créé l'homme droit. Vem Bikshu Chishbonot Rabim. Mais ce sont les hommes Bikshu qui ont demandé ou qui ont fabriqué Chishbonot Rabim, des comptes multiples. C'est-à-dire, quand on dit Chishbon, ça veut dire des édifices qui empêchent de voir la Yashrut, de voir ce qui est Yashar. Il y a des notions qui sont les notions du moi. Chacun selon sa madriga. On va dire même peut-être chacun selon sa neshama, a une perception claire, une perception claire de ce qui est pour lui une vérité. De même que les sens peuvent tromper l'homme, de même ce moi peut tromper l'homme aussi. Il peut le tromper lorsqu'il se pervertit. Comment il se pervertit ? Il se pervertit par ce qu'on appelle la neguia, le fait que l'homme a des besoins, a des tendances, a des désirs, et que pour pouvoir accéder à ces désirs, qui sont très souvent à l'inverse de ce que lui commande le moi, alors l'homme compose avec le moi. On était, et plus on avait dit que quoi ? Qu'il peut arriver des situations où un homme ne juge pas par rapport à ses sens, mais par rapport à son moi, même si c'est en contradiction totale avec ses sens, ou alors qu'il fait fi totalement de ce que les sens lui disent. On peut dire à quelqu'un, si tu continues comme ça, tu vas dans le mur, mais il continue dans le mur. Pourquoi ? Parce que pour lui, il n'y a pas de mur. C'est ça ce qu'on appelle la Elohim bara et Adam Yashar. Dans la littérature des Chachamim, on appelle ça le Anochi, le moi. Ce moi-là, il peut grandir et il peut devenir tout petit. Il peut se pervertir aussi. Mais il y a des occasions où il est naturellement plus grand que tous les sens. On m'a donné l'exemple. Au moment du Har Sinai, il est écrit Ve'am Roim et Takolot. Et Rabbi Chaim Volozhin explique qu'il voyait vraiment des voix. Je sais pas comment on peut voir des voix. Il dit non, on ne peut pas voir des voix. Et comment il pouvait entendre une écriture ? Ou voir une écriture. C'est des choses qui pour nous ne veulent rien dire. Ça, c'est lorsqu'on juge avec le monde des sens, des cinq sens. Mais quelqu'un qui comprend que souvent, il n'a pas besoin de ses sens pour juger des choses, il peut avoir une autre perception. Donc on avait dit que quoi ? Qu'ils étaient arrivés à une madriga, à un niveau où on n'est pas perverti par le sens. Ça veut dire, Roïm et Takolot, il n'avait pas besoin d'entendre pour percevoir. On peut être sûr de quelque chose sans l'avoir entendu. Il en était de même dans ce qu'on appelle les Nissim. Et donner l'exemple par exemple, Yaakov Avinu. Il y a marqué dans le Midrash Kaftsalo Aderech. Entre le moment où il est sorti de Haran et le moment où il est arrivé à Bethel, il est marqué dans le Midrash, ça s'est fait en un jour, c'est impossible, Kaftsalo Aderech. C'est-à-dire que le chemin est devenu plus court. C'est pas que des gens ont vu aller tout à fait vite comme une fusée. C'est qu'il y a des gens qui peuvent percevoir qui qu'on n'a pas besoin de temps et tant de temps pour arriver à tel et tel endroit. Il y en a qui ne peuvent pas percevoir. Il s'agit de la même chose pour la manne, que le Erev Rav qui était avec les Bnei Israël dans le désert, il voyait la manne, mais il ne pouvait pas la toucher. Les Égyptiens, pendant la période du Rocher de l'obscurité, ils n'avaient pas la lumière qu'avaient les Bnei Israël. Pourquoi ? Parce que les sens, ce sont des informations qui me sont données lorsque je leur accrédite une importance. Je peux, dans certaines situations, ne pas leur donner d'importance. Et à ce moment-là, les informations arrivent autrement. On avait dit, c'est le sens de ce qui a marqué dans le Rambat, que le monde physique est là pour cacher la présence divine. Il n'a pas d'autre raison. Il n'a pas d'autre existence. Celui qui n'a pas besoin du monde physique pour cacher cette présence divine, on va dire le contraire. Celui qui n'a pas besoin du choix que lui donne le monde physique pour cacher ou dévoiler la présence divine, il peut faire fi de ces notions-là. C'est ça le sens de Roi Métacolote. Il y a des choses qu'on peut voir et qu'on n'a pas besoin d'entendre. Parce qu'on le voit, c'est évident. Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est exprimé au moment du Matan Torah pour les d'Israël, c'était une évidence, ça n'avait pas besoin de passer par l'oreille. Donc on peut parler de Roi Métacolote. On voit des voix. En vérité, il fallait encore un peu plus loin. Ça, c'était les choses pshutines dont on a parlé. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Brachot. David Amelech, le roi David en était, il m'a dit Chamisha Borachi Nafshi. Trois fois, il s'est exprimé en disant Barachi Nafshi, que mon nefesh, ma personne, Barri, qu'elle adresse une bénédiction à Akadosh Baruch Hu. Dit la Gemara qu'il y a cinq rapports, cinq similitudes entre Dieu et le monde, et la Neshama et le Gouf, c'est-à-dire l'âme et le corps. Et à cause de ces cinq similitudes, David HaMelech a dit cinq fois « Baruch Inafshi ». Alors on va essayer de voir quelles sont ces cinq similitudes. La première, c'est « Ma Akadosh Baruch Hu Roé Ve Eno Nire ». De même qu'Akadosh Baruch Hu voit et n'est pas vu, la Neshama voit et elle n'est pas vue. Bon, c'est faux, c'est les yeux qui voient. C'est pas la Neshama qui voit. Et qu'elle n'est pas vue, bien sûr qu'elle n'est pas vue. Puisque tu inventes une entité, alors tu dis elle n'est pas vue, bien évidemment. On va dire elle n'est pas vue parce que c'est une vue de l'esprit. C'est une catégorie qu'on appelle Neshama. Un concept, alors tu me dis mais elle ne voit pas. Ou elle voit et elle n'est pas vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, hein. Voir et ne pas être vu. Il y a en hébreu, entre le terme être et avoir, la même différence qu'il y a entre le terme Olam Haba et Olam Hazé. C'est-à-dire que la caractéristique de ce monde-ci, c'est ce qu'on appelle l'avoir. La caractéristique du monde futur, c'est ce qu'on appelle l'être. C'est pour ça qu'au nom du Mirtam Eliaou, on dit, il dit qu'il a vu dans un Sefer, il dit pas quel Sefer. Il dit qu'il a vu dans les Sfarim qu'il est écrit qu'un homme ne va pas dans le Olam Haba. C'est le Olam Haba qui est dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les catégories qui sont les nôtres, tout ce qui est du régime de points avoir, ce sont des choses qui ne font pas partie de la personne et qui ne feront jamais partie de la personne. Et si moi, je me juge ou je juge une autre personne à travers ces catégories-là, je me trompe. Ça va très loin, puisque celui qui a écrit le Sefer Mesilat Yesharim, le Chacham Lutzato, il écrit que le Sechel c'est difficilement traduisible,
l'intelligence.
Voilà, vous l'avez dit, c'est difficilement traduisible.
La capacité de raisonnement.
Capacité de raisonnement, intelligence, tout ce que vous voulez. C'est une catégorie du Olam Hazeh. Ça ne fait pas partie du Olam Haba. Alors, pour nous, c'est difficile de comprendre. C'est-à-dire que dans l'Olam Haba, on n'a pas besoin de Sechel. Le Sechel, c'est un ustensile. Et il est vil comme tous les ustensiles. Et celui qui croit que parce qu'il a compris que son Sechel, c'est lui, il se trompe. Son Sechel, c'est pas lui. Parce que le Sechel fait partie des catégories de la voix, alors que lui fait partie des catégories de l'être. C'est-à-dire que ce qui pour nous caractérise, ce qui est intellectuel, donc ce qui est spirituel, le fait même de le caractériser, c'est faux, puisque ça fait partie de catégories qui sont au-dessus, et non pas des catégories qui font partie de la personne. Alors évidemment que tout le reste de l'avoir, c'est la même chose. C'est la collusion. On va dire plus que ça. Non seulement c'est la collusion, mais c'est l'amalgame que fait l'homme entre ces catégories et sa propre personne qui donne la jouissance de ce monde-ci. Si tu me dis c'est l'autre qui a trouvé, ça ne me fait pas plaisir. Si tu me dis c'est moi qui ai trouvé, ça me fait plaisir. Mais moi et trouvé, c'est deux notions qui sont antinomiques. Mais comme j'arrive à faire l'amalgame, parce que les deux ont la même histoire, alors je tire mon profit de l'amalgame. Je veux croire, et je fais croire, que mes avoirs font partie des catégories de l'être. C'est en cela que l'homme arrive difficilement à dégager un anochi, un moi, qui est propre. Parce qu'il a tendance à amalgamer. Il est possible que même des traits de caractère fassent aussi partie de l'avoir et non de l'être. On va ouvrir une parenthèse. Sachez que les Chachamim distinguent deux façons de juger l'homme. Une s'appelle Amidat Hadin, c'est-à-dire on regarde les choses selon une logique. Et l'autre c'est Midat HaRachamim, la pitié. Demande le Maharal de Prague, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Rachamim, la pitié? C'est pas la pitié. Un c'est Midat Hadin et l'autre c'est Midat HaChesed. Chesed ça veut dire la bonté. Mais pourquoi parler de pitié? On est d'accord? Je donne gratuitement, c'est du chesed. Je donne parce que l'autre mérite, c'est du din. D'accord? Alors pourquoi tu parles de pitié? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit la pitié, c'est la pitié devant le dîn. Quelqu'un qui n'est pas menacé par le dîn, on n'a pas pitié de lui, parce que pitié, c'est la pitié du dîn. La pitié en soi n'existe pas si le dîn n'existe pas. Vous comprenez? Non, on va recommencer. Lorsqu'on appelle en hébreu le rachem, rachamim, ça veut dire rachamim minadin. Tu vas le sauver de son din. Mais s'il n'y a pas de din, il n'y a pas de rachamim. Alors que le chesed, il existe sans le din. Comprenez? Je vais donner quelque chose gratuitement à quelqu'un. Pour n'importe quelle raison, ça n'a pas de rapport avec le din. Il n'existe pas de notion de rachamim sans notion de din. Parce que je vais sauver quelqu'un de son din. C'est ça les rachamim. Lorsqu'on dit que Dieu juge bemilata rachamim, ça veut dire qu'il sauve l'homme de Dieu. Il le sauve du din. Ou il le sauve de lui-même. Parce que il y a besoin d'une certaine rigueur pour constituer une personne. Lorsque je dis que je vais dans le Rachamim, je le sauve de lui. Ou je le sauve du bon Dieu. C'est la même chose en vérité. Une fois, on l'appelle comme ça, une fois, on l'appelle ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont des catégories existentielles. Il y a des catégories qui sont des catégories empruntées ou plaquées. Le chesed en soi, c'est une mida. C'est quelque chose d'existentiel. On va dire de fonder. Le din, c'est une notion de fonder. Le rachamim, c'est pas fonder. C'est une réaction de la personne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si quelqu'un se trouve qui est très rachamam, ça ne fait pas partie des catégories de la personne. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à supporter le din, il n'arrive pas à le supporter chez lui, il n'arrive pas à le supporter chez l'autre. Il s'évanouit devant la vue du sang. Ça, ça n'est pas de l'être, c'est de la voix. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. En aucun cas, c'est une qualité qui fait partie de ce qu'on appelle le Hanori, du moi. Alors que le Chesed, oui. On est d'accord? C'est un petit peu fin, mais c'est juste. On va faire la parenthèse. Lorsque quelqu'un arrive à se débarrasser de tous ses avoirs, il peut savoir qui il est. Mais ça va être très difficile de se débarrasser de ses avoirs. Parce que même la façon dont il se comporte avec l'autre tous les jours, ça peut faire partie du rachamim et non du chesed. Donc ça fait partie de l'avoir et non de l'être. Donc il ne sait même pas qui il est. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux avoir le badge de la Ligue du Cancer, et n'avoir aucune catégorie de l'être. Alors que souvent l'homme se trompe, et il croit que ces catégories qui sont celles de l'avoir font partie de sa vie. Elles ne font pas partie de sa vie. C'est ce qu'on appelle en hébreu des kélim, des ustensiles. Ce sont des ustensiles dont on se sert. C'est du domaine du khouch, des sensations, et c'est pas du domaine de l'être. Lorsqu'on dit que la neshama, elle est roa, elle peut voir veina nirit, ça veut dire que la neshama de la personne, c'est tout ce qui ne fait pas partie d'aucune façon d'une catégorie de la voir. Parce que la voir se démarque, il se voit, alors que l'être, il n'existe pas. Ça se sent, mais ça ne peut pas exister. Parce que je n'arrive pas à l'isoler de ma propre personne. Comprenez? C'est pour ça que souvent les gens croient qu'ils ne font que pourrir leurs avoirs, alors qu'en vérité ils pourrissent leur être. La tactique, la politique, ce qu'on appelle les cheshbonot, les comptes. on croit que ça pourrit que l'avoir, mais qu'on reste propre. On ne peut pas savoir. Ça peut pourrir l'être aussi. C'est ce qu'on appelle la neguia. Neguia, ça veut dire de coller à ses avoirs, de n'avoir aucune indépendance par rapport à ses avoirs. Ça veut dire que le soir, lorsque quelqu'un fait son vide, oui, il regarde ce qu'il a fait dans la journée. Pour savoir exactement où il en est, il doit enlever tous les avoirs. Les avoirs, ça veut dire tout. Tous les rôles qu'il joue, qui font peut-être pas partie de l'être. Et à ce moment-là, il peut juger s'il est resté propre ou non. Donc c'est pas si facile que ça. C'est ça ce qu'on appelle Dodi Tsar Vadam. Tsar, ça veut dire il est propre, il est blanc. Il n'y a pas de tâche. Adam, malheureusement, ça veut dire que si celui qui est blanc ça n'a pas d'incidence autour, ça sert à rien. Alors il est aussi obligé de punir. Ça qui est marqué Madoua Adam le Vouchecha que Dorer Bagat. Le clan Israël demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi ton habit est si rouge du sang des Bnei Israël que Dorer Bagat, comme celui qui foule le raisin, dont l'habit devient rouge. Mais l'habit d'Akadosh Baruch Hu, il est rouge du sang des Bnei Israël. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de catégorie de tsar, de quelque chose qui est propre, si on n'a pas une catégorie qui est Adam. Ça, c'est ce que Rashi dit ici. Rashi dit tsar ve Adam, c'est, ça fait allusion à Madoua Adam le Vouchera. Le peuple juif, lorsqu'on lui demande Mado Dermidod, il est obligé de répondre que la catégorie qui est celle de l'être, lorsqu'elle juge, elle est obligée de faire des dégâts dans la catégorie de l'avoir, mais jamais dans la catégorie de l'être. C'est difficile à comprendre. Mais c'est une des seules réponses qu'on a dans tout ce qui est injuste dans la vie. Vous savez que même Moshe Rabbeinu lui-même, lorsqu'il est monté sur l'Har Sinaï, dit la Gemara dans le traité de Brachot, dans le Vatra, il a demandé à Kadosh Baruch Hu Madou Hatzadik Veralo. Pourquoi est-ce que le Tzadik, il lui arrive des tourments, et souvent le Racha Tov, le Racha, il a tout ce qu'il faut. Et à Kadosh Baruch Hu lui a répondu qu'il a le Rani Adam Bachai, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. C'est la justice immanente. Mais une approche, on est obligé d'avoir. C'est que dans la vie, personne, et même le bon Dieu, ne peut jamais toucher les catégories de l'être. Il ne peut toucher que la catégorie de l'avoir. Même la vie, elle-même, dans ce monde-ci, ou dans le monde futur, elle ne se distingue que par être d'une catégorie de l'avoir ou de l'être. Nous, on est obligé de croire qu'on n'est pas seulement ici. Donc si on n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'on a pu toucher à l'être. On ne peut pas toucher à l'être. C'est-à-dire que la question, elle a quand même une certaine relativité. On ne peut toucher qu'à l'avoir. On va revenir. 5 Barchi Nafshi. 5 fois il y a marqué Barchi Nafshi. Le premier, que la Neshama, elle est roi Venanirit. Elle voit, mais elle ne peut pas être vue. Ça veut dire que. On a dit, mais c'est le corps qui voit. Voir, ça veut dire qu'elle dirige. Enanirit, Ça veut dire qu'on doit enlever toutes les catégories de la voir. Et la catégorie de l'être, elle ne se voit pas. Deuxième chose qui a marqué là-bas, la similitude entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. De même qu'Akadosh Baruch Hu me malé kola olam kulo. Dieu remplit le monde. De même, la Neshama me mala et kola gouf. Elle remplit le corps. Ça, c'est encore plus difficile, parce que le gouf, c'est le gouf. Si le gouf est rempli de Neshama, alors c'est une Neshama. Ça veut dire quoi que le gouffre est rempli de Neshama? C'est faux. Il y a le Neshama et il y a le gouffre. Ça veut dire ce qu'on a dit avant. C'est que le gouffre, c'est un prétexte. C'est une catégorie de l'avoir. C'est un ustensile dont on a besoin pour que l'être devienne différent. Mais en soi, il n'existe pas. Il n'est rempli que de Neshama. On pourrait dire que c'est une illusion. C'est comme Abraham Avinu, il a vu des malachim, il a vu des anges. Il les a vraiment vus. Et pourtant, ils n'existaient pas. Hein? C'est pour ça que je dis que ça ne fait pas partie des catégories du Olam à
Asiya.
Ça veut dire que quelquefois, on peut vivre dans l'Olam à Yitzira. On ne voit pas le monde comme on pourrait le voir. On voit les choses autrement. On peut vivre avec en tant que crainte ou en tant que repère le matériel, l'avoir, et on peut vivre à une autre catégorie, que ce soit dans le Olam à Yetzira. Et on fait tous semblant de vivre dans le Olam à Asiya. Ça veut dire que ça ne gêne pas du tout. Il faut juste savoir qu'on fait semblant, que c'est des choses qui n'ont aucune importance. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire semblant? Parce que l'être évolue selon les directions qu'on lui donne, et ces directions on lui donne à travers de nos avoirs. Il faut savoir que ces avoirs, ce sont peut-être que des vues de l'esprit. C'est vrai que c'est une question que tous les philosophes se sont posées. Est-ce que l'autre qui est en face de moi, est-ce qu'il existe ou c'est une vue de mon esprit? La réponse la plus facile, si tu sors, si l'autre en face de toi il existe, viens qu'il te donne un bon zbeng, tu vas voir. Mais ça, ça aussi, ça peut faire partie des catégories de l'être. On ne sait pas. Ça, c'est la différence entre l'Olam à Yitzira et l'Olam à Asiya. La troisième chose qui a marqué là-bas en ce qui concerne le Neshama, c'est intéressant, pourquoi? Parce que il y a marqué que la Neshama, elle a une Kedusha, une Tahara. Comme à Kadosh Baruch. Donc maintenant on peut comprendre que le moussaf de la Kedusha, c'est que quelqu'un, il sait bien qu'il fonctionne avec tout ce qui se passe dans l'Olam Hazeh. Mais il arrive à en être détaché, c'est-à-dire il fonctionne comme quelqu'un qui est sans moi et qui utilise des kélim, j'utilise des ustensiles. Et ces ustensiles, ça peut être tout. Tout ce qu'on voit. L'ustensile, ça peut être le sourire et la colère. L'ustensile, ça peut être tout. On peut tout utiliser. Chaque fois qu'on se situe un petit peu au-dessus, on est dans le Olam Hayetzira. C'est-à-dire qu'on vit par rapport à ce qu'on pense et pas à ce qu'on voit. Donc on peut très bien agir et penser de façon différente et vivre dans des Olamot différents. Et on est obligé parce que, après, il y a encore l'Olam Abriya. Et après, l'Olam Atzilut. Celui-là n'est pas pour nous. Donc, en tout cas, déjà, on arrive à comprendre ces notions-là. Dodi, Tsar, Vadom, ces notions compliquées. Ça veut dire que pour être propre, ça coûte cher. Le peuple juif, lorsqu'on lui demande Madoder Midod, en quoi Dieu est tellement important pour que tu souffres ce que tu souffres pour lui? Alors il répond, parce que Dodi il est tsar, mais Adam. Si tu veux que les choses soient claires, alors il faut être prêt à payer le prix. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on doit se rappeler qu'on ne paye de prix qu'en avoir, jamais en être. Ça n'existe pas de payer en être. Ça veut dire que on ne donne jamais rien de fondamental et on n'encaisse jamais rien de fondamental. Jamais. Les seules choses qu'on puisse perdre et qui est dans la notion du fondamental, c'est ce qu'on perd soi-même. Ce qu'on s'abîme soi-même. Mais ce qu'on reçoit de l'extérieur, même si c'est du bon Dieu, il ne touche jamais à l'être, il ne peut toucher qu'à l'avoir. C'est-à-dire que même si quelqu'un est réhabita, même si on dit « tu n'as plus le droit d'exister », on n'a toujours pas touché à son être, on n'a fait que toucher à son avoir. Et c'est relativement, on va dire, je ne serai pas l'heure de jouer avec la souffrance des autres, c'est relativement moins grave que l'être. Ça veut dire que c'est que d'une catégorie. Et lorsque c'est que de cette catégorie, on est obligé de relativiser les choses. C'est-à-dire que c'est un problème grave, mais c'est quand même qu'un problème relatif. On n'est pas obligé de se laisser envahir par ce problème. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dagul Mervava. Dagul, on a dit, ça vient du mot Degel, dont on a déjà expliqué une fois que Degel était marqué dans le Midrash, dans la paracha de Bamidbar, que chacun était à son Degel, ça veut dire que chacun a une spécificité. Chacun est remarquable. Chacun a un Degel. C'est-à-dire que chaque homme a sa forme de grandeur qu'on va pouvoir respecter. C'est ça ce qu'on appelle les deux galim. Ici, il y a marqué Dagul, ça veut dire remarquer, mi revava. Revava, c'est la multitude. Et le Midrash dit, c'est la multitude des anges. Alors attention ici, il faut juste une minute d'attention. Qu'est-ce que ça veut dire la multitude des anges? Alors nous on s'imagine qu'Akadosh Baruch Hu est au milieu des anges et Revava et l'Irachi, c'est le singulier pluriel, ça veut dire le singulier parce qu'il y a tellement de Revavot, il y a tellement de myriades que ça ne devient qu'une myriade et Akadosh Baruch Hu est distingué au milieu. Mais c'est obligé de comprendre ce que ça veut dire. Nous, on a déjà dit que les anges, ça veut dire que c'est un lien entre Dieu et l'homme. On confond souvent le malach avec le bon Dieu lui-même. Et on va essayer d'expliquer. Il y a des choses que je comprends, il y a des vérités auxquelles j'ai accès, il y a des histoires qui m'arrivent, et comme on en attribue l'intervention à Akadosh Baruch Hu, on se fait une idée d'Akadosh Baruch Hu selon ces liens qu'on a avec lui. On dit une fois ce que certains disent que l'homme a inventé Dieu, c'est vrai. mais pas dans la notion, mais dans la désignation. C'est pour ça que nous nous appelons Dieu Hachem, parce qu'on ne peut y mettre que ce qu'on a compris. Mais là, il faut faire très attention. Quand on y met ce qu'on a compris, alors on dit il est bon, il est gentil, il est ceci, il est cela. Il n'est rien de tout ça. Il ne faut pas confondre. Chez Dieu, l'être et l'avoir. L'avoir chez Dieu, ce sont ce qu'on appelle ses attributs. Ou les interventions qu'il a dans le monde. Si j'ai vu une fois que le monde a pitié de quelqu'un, ça ne veut pas dire que sa nature, c'est d'avoir pitié. C'est faux. Si je vois que il y a des gens qui sont punis, ça ne veut pas dire que sa nature, c'est de punir. Il est dagoul, mervava. Il n'a pas de rapport. Il est distingué, il est à part de la revava. La revava, c'est ces manifestations que tu peux percevoir dans la création. Tout ce que tu verras, tu diras c'est le bon Dieu, c'est pas le bon Dieu. C'est la façon qu'il a de se déplacer. Mais c'est pas lui. C'est son Shem. Mais lui, il est Dagoul Meravava. Vous allez me dire, mais ça fait quoi comme différence? Qu'est-ce que ça peut me faire? Il a cet habit, il a celui-là. Dans le Marzor de Rosh Hashanah, lorsqu'on veut dire que Dieu il a pitié, on dit le Poel Rachamav Badin. Dieu il est Poel Rachamav. Poel Rachamav, ça veut dire il actionne. Ça veut dire que tout souvent on a tendance à se dire bon, on va s'arranger avec le bon Dieu. Ce qui n'est pas comme ça. Mais il est rien. C'est qu'à travers toutes les actions, moi je me suis fait une idée. Mais tu te rends compte combien il faut voir d'actions du bon Dieu pour se faire une vraie idée? Des actions, pas de lui. Alors nous, comme on ne peut pas, on s'est fait une idée du bon Dieu. Et on se met un rapport intime et gentil avec le bon Dieu qui est s'arranger. Ça, c'est pas si grave, le bon Dieu préfère ça. Ça, on a jamais dit, vous savez, le bon Dieu préfère qu'on soit gentil plutôt qu'on fasse des mitzvot. C'est bon. D'où tu sais? Non, je sais. Ça veut dire que on relativise les choses par rapport à une idée qu'on s'est fait du bon Dieu. Mais le bon Dieu, on n'a pas d'idée, il est poël. C'est-à-dire, il agit. Et si on se rend compte de combien de fois il agit, alors on voit que la petite vue de ce qu'on a, de la façon dont il agit, on a une idée tellement zéro que c'est même pas la peine de parler de la façon dont il agit. C'est-à-dire que l'idée, elle est automatiquement fausse. On ne peut pas avoir de compromission. On ne peut pas avoir, comme il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, vos prières, elles sont bien, mais vous n'avez pas d'intimité avec le monde. Vous comprenez? C'est difficile d'être intime qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que quoi? Que la seule chose que je connais, c'est la relation d'Akadosh Baruch Hu avec moi. Ça, je connais. Dagoul Mervav. Tu ne peux pas te faire une idée de... Tu sais qui c'est? Parce que autant que tu as de revavot, c'est-à-dire, tu vas voir toutes les interventions d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, toute la façon dont il dirige le monde, dont toi tu perçois que c'est une règle absolue qui a été mise par le bon Dieu au moment de la création du monde. Il n'a rien à voir avec tout ça. Alors comment toi tu vas avoir un rapport avec lui? Tu dois avoir un rapport avec lui vis-à-vis de toi. Ça veut dire que quoi? Toi, tu es un pur produit du bon Dieu. Et à chaque instant, tu dois pouvoir lui dire merci parce que tu es là. Et tout ce que tu as, ça vient de lui. Mais tu ne peux pas essayer de le mettre dans des catégories parce que tu as vu qu'il était gentil avec Paul, alors il sera gentil avec moi. Il était méchant avec Pierre, alors il sera méchant avec moi. De se créer la peur panique du bon Dieu parce qu'il était méchant avec l'autre et qu'on a peur toute la journée, c'est faux. Parce qu'il est Dagoul Merovava. De tout ce qui peut être caractérisé comme les Poulot, comme les façons de Dieu d'agir, écarte-les puisque tu n'arriveras jamais à faire le tour. Donc tu ne peux pas en avoir une quintessence qui fait que tu le connais. Un homme se rassure souvent parce qu'il connaît le monde de lui, il sait comment ça marche. C'est pas comme ça. On peut se rassurer d'une autre façon. C'est de voir comment le monde a joué avec soi-même et à ce moment-là de créer une catégorie. Comment moi je suis avec lui, comment il est avec moi. Qu'est-ce que je lui dois, qu'est-ce que je lui dois pas. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas. Dans quelle catégorie il me met, dans quelle catégorie il me met pas. Comprenez? C'est-à-dire que la comparaison, pour avoir un rapport avec l'idée qu'on a de Akadosh Baruch Hu, non seulement elle est fausse, mais il faudrait pouvoir cerner tous les revavotes, tous les myriades d'interventions à chaque instant pour pouvoir avoir une façon claire de l'intervention. C'est pour ça qu'on dit il est Dagoul, mais Revava. Ne le juge pas par les Revava. Il est Dagoul, il a son drapeau lui. Il est distingué, il n'a rien à voir. Alors que le non-juif, c'est juste le contraire. Toute son idée de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il voit de ce qui se passe. Ça veut dire que ce n'est pas un rapport d'être créé à créateur, c'est un rapport de force à force. Il est plus fort, alors il est plus fort. C'est ça que Shlomo HaMelech vient dire ici. En tout cas, on pourrait comprendre comme ça. Dodi Tzav Ve'Adam. Akadosh Baruch Hu, il est clair. Il a créé l'homme Yachar. On peut le percevoir lorsqu'on est Yachar. Mais ça va coûter cher. Il faut payer le prix. Celui qui ne sait pas payer le prix, il ne fait pas partie de la catégorie. Dagoul Merovava. Et ne crois pas que tu vas t'illusionner sur les façons de payer le prix. Ou tu vas t'illusionner sur les rapports que tu vas avoir avec lui. Parce que Dagoul Merovava, il n'a rien à voir avec toi. Il ne peut pas faire partie de tes catégories. Maintenant, on peut comprendre aussi le Nimshal. Rachidi, au début, il dit c'est comme un homme qui a la peau claire, mais qui a le visage rouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois de la beauté quelque part, ou de la rigueur quelque part, ou tu vois que les choses, elles, sont bien faites quelque part, il ne faut pas oublier que ça vit. Et si ça vit, ça va dans un sens. Ça veut dire quelque chose. Alors si ça vit, il y a celui qui passe à côté de la vie, il paye. Il y a celui qui passe à travers la vie, qui paye. Chacun selon sa catégorie. L'un n'est pas possible sans l'autre. C'est pour ça que il est impossible de comprendre l'histoire, puisque le deuxième pshat qu'il amène Rashi, il vient du Midrash, il dit Tsar Vador, c'est que même lorsque tu as des fautes, et que on a compris, on a comparé Imiu Chataechem Kashani, si vos fautes, elles arrivent à la couleur de la pourpre, le cramoisi, Kashelegi Albino, on va rendre ça pur, propre, comme la neige. C'est la raison pour laquelle au Beth Amikdash, lorsque à Yom Kippour l'après-midi, on faisait des Seirim, les deux boucles de Yom Kippour, il y avait le Shon Shel Argamad, il y avait une langue qui était accrochée, et que lorsque les Seirim, on avait terminé le sacrifice, de pourpre, elle passait au blanc. Et à ce moment-là, le peuple savait qu'on avait obtenu la capara. C'est-à-dire que le Yom Kippour s'était bien passé. Im yuchataychem kashani, kashel egalbino. Pourquoi c'est comme ça? Parce que très souvent, ce qui est sali, c'est aussi du domaine de l'avoir et pas du domaine de l'être. Ça met longtemps jusqu'à ce que l'être lui-même est sali. C'est-à-dire qu'on peut se salir, mais on n'est pas sale. Au fur et à mesure, et c'est ça la notion de tchouva, si tu ne fais pas tchouva de temps en temps, alors là, ça commence à rouiller. Et quand on enlève la rouille, on enlève du métal, baba. Mais, si on fait un petit peu attention, on peut s'en sortir. Em bikshu cheshbonot rabim, les cheshbonot, on peut les enlever. Et il reste le yachar. À moins qu'on abîme le yachar aussi. Mais il faut croire que même si on abîme le yachar, on peut de nouveau recommencer. C'est pas évident. Tout dépend des catégories dont on avait parlé. Il y a 15 jours, il y a un mois, que de pas toutes les fautes, on peut faire tchouva. Et pas n'importe comment on peut faire tchouva. Mais on peut faire tchouva même si on a abîmé, mais si on a abîmé l'être aussi. Donc on peut comprendre, c'est ce qui est marqué ici. Dodi, tsar, ve'adam. C'est vrai qu'il regarde les péchés, c'est vrai qu'on comptabilise. Mais il est tsar. Ça veut dire qu'on arrive à blanchir aussi. Dagoul Mervava, il est distingué de parmi les multitudes. Il y a encore une autre idée qu'on doit comprendre ici. Lorsque Shlomo HaMelech dit que les peuples de la terre, et il dit c'est même les persécuteurs. Pourquoi Rashi Ramel Midrash dit c'est qui Benot Yerushalayim? C'est Nabucodonosor, ceux qui ont persécuté le peuple juif. Eux-mêmes, ils se demandent Ma doder midod shekacha ishbatano. Ça veut dire que quoi? Que même celui qui a la haine du juif, même celui qui veut le détruire, il se demande quelque part qui c'est ce juif-là? Pourquoi il est tellement acharné? Ça veut dire que on peut être quelqu'un qui persécute l'autre et on peut avoir un rapport avec la tchouva. Parce que vous savez qu'on a déjà dit que on n'échappe jamais au bon Dieu. Il n'y a rien, même le mal, qui ne fasse pas partie de la volonté divine. J'avais donné l'exemple que Pharaon, c'est celui qui voulait enlever toute possibilité que quelqu'un vienne délivrer le peuple juif. Et donc, il a tué tous les garçons. Et la Gemara a dit qu'il a tué aussi les garçons égyptiens qui venaient. Et finalement, c'est lui qui a éduqué Moshe Rabbeinu dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à son destin. On le voit aussi dans le fait que lorsque Pharaon s'est aperçu que le peuple juif était parti, il a tout pris avec lui, il a pris toutes ses richesses pour ne pas les laisser en Égypte, et il est allé poursuivre le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Il fallait que le peuple juif sorte riche d'Égypte. Comment on va sortir riche? Alors il est parti avec toutes ses richesses, et comme ça, il a tout noyé dans la merde. Donc en vérité, lorsqu'il croyait être allé rechercher pour ramener le peuple juif, en vérité, il est allé pour lui apporter ce qui lui manquait à la sortie d'Égypte, puisqu'on sortait en vitesse. Et c'était difficile de porter toutes les richesses, alors c'est Pharaon lui-même qui est venu. Et il leur a amené. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à la volonté divine. De ce fait-là, on aurait tendance à dire que puisque de toute façon on ne peut pas échapper, alors il y a une relativisation de ce qu'on appelle le srar et le honesh, de la responsabilité de l'homme. Parce que vous savez que, à part la Torah, pratiquement aucune religion ne donne une importance à l'action de l'homme. Tellement l'action de Dieu, elle est grande dans le monde. Il y en a qui vous disent, le bon Dieu, il est tellement grand, tellement truc, que de toute façon, tout ce que tu feras, ça n'a aucune importance. Il faut juste aimer. Alors qu'ils vous disent que même les leçons de bien et de mal, ça n'a pas une grande importance vis-à-vis de la grandeur de Dieu. C'est on peut arriver à tout dire. Lorsque le clan d'Israël, il est obligé de se définir, puisque finalement même celui qui le persécute, il lui dit, mais t'en as pas marre. Ma doder minot, assimile-toi, ça y est, on a marre. Alors on est obligé de répondre que Tsar veut Adam. L'idée que nous on a d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une idée qu'il est tellement grand donc ce qu'on fait c'est petit et ça n'a pas d'importance. Et que l'on est de petits acteurs, donc qu'on fasse ou qu'on fasse pas, il n'y a pas une grande différence. C'est que plus on pense qu'il y a une importance de l'action d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et plus que moi je fais, ça prend de l'importance. Et pas le contraire. On va essayer d'expliquer. Plus je dis que il n'y a rien qui est laissé au hasard, et il y a Revava, il y a des multitudes et des multitudes d'interactions d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc ça veut dire que les choses ont une importance. Donc plus que moi je fais a une importance. Et pas le contraire. On prend la différence. Moi, je peux venir et dire, voilà, le bon Dieu s'occupe déjà, de toute façon, c'est dans le plan divin, toi, tu n'existes pas, c'est Emmet. Mais si le bon Dieu intervient tellement, c'est que c'est important ce qui se passe. Si c'est important ce qui se passe, chaque action est importante. Donc ça donne le contraire. C'est pour ça, lorsqu'on demande au peuple juif, Madoder Midot, en quoi tu le distingues des autres? Il te dit, c'est simple, c'est qu'il est important. Puisque toi-même, tu me demandes, Madodermel, quelle est l'importance? Plus on va donner d'importance, et plus chaque action a l'importance. Donc plus il y a du faux et du vrai, et plus je dois distinguer le faux et le vrai, et plus ça a d'importance si c'est faux ou si c'est vrai. Dodi, Tsar, regardons. C'est pas seulement qu'il est blanc et que tout va bien, et que on se contemple. C'est que il est tsar, mais il est Adam. Donc plus on va te dire Madoder Midot, dans quoi il est important, et bien plus il est important, et plus les choses ont une importance. Dagul Mervava, ça veut dire que toutes les interventions, elles sont tellement grandes, il y en a tellement, que lui il est encore au-dessus de ça. Donc imagine-toi quelle est l'importance de n'importe quel petit acte que tu vas faire. Et ça, c'est la différence entre nous et les non-juifs. C'est qu'il n'y a aucun non-juif qui a compris que la valeur d'une personne, c'est la valeur des petits actes qu'elle fait lorsqu'elle est seule. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Yevamot, que Ger Abba le Hit Gayer, lorsqu'un non-juif veut se convertir, modim lo miktsat chamurot ou miktsat kalot. On va lui dire une partie des mitzot chamurot, importante. Tout ce qui est Shabbat, Mitat Bedin, Karet, et Kalot, les Mitzot, qui sont petites. Petites dans les conséquences. Demande un commentaire qui s'appelle le Meiri sur la Gemara dans Yevamot. Si tu lui dis les Chamurot, qu'est-ce que tu as besoin de lui dire les Kalot? Tu dis déjà à quelqu'un, tu sais, si tu fais telle et telle chose, tu risques ta peau. Alors de lui dire, tu sais, telle et telle chose, c'est pas puni. Il n'y a pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que un non-juif peut comprendre qu'il y a des choses rabon. Il y a des choses importantes. Mais que le bon Dieu, il fait attention aux choses pas importantes, ça il ne peut pas comprendre. Dodi tsar v'adom dagoner v'adom. On fait attention aussi aux choses qui n'ont l'air de rien, parce que ça aussi c'est la définition de la personne. Tu dis, mais c'est pas important. C'est vrai que c'est pas important dans le sens que on va pas te taper dessus si tu le fais pas. Mais c'est important dans le sens que ça doit être fait comme les autres. Ça veut dire que lorsqu'on dit à quelqu'un, il y a des ramorotes, il y a des calottes, des choses légères, c'est pas pour dire que c'est moins important ce qui est léger. C'est de dire que ce qui est léger, c'est aussi important. Puisque c'est léger, tout est important. Et on remarque que la nature est faite de telle façon que chaque chose a une importance. On n'arrive peut-être pas toujours à le mesurer, mais chaque chose a une importance. C'est pour ça que lorsqu'on demande au cœur d'Israël, est-ce que ça vaut tellement la peine, avec toute la souffrance que tu vas endurer, ça veut dire sous-entendu, donc puni pour n'importe quoi, alors que les autres tranquillos, c'est que... Dodi tsar vado. C'est vrai qu'il est tsar vado. On va payer. Aval dagumer vada. Chaque chose a une importance. Lorsque chaque chose est importante et que tu donnes un sens à chaque chose, alors tu arrives à comprendre pourquoi ça coûte tellement cher si on fait les bêtises. Mais lorsque tu donnes pas d'importance, tu dis mais alors pourquoi ça coûte? C'est pas important. Un homme ne se définit pas dans les grandes choses, il se définit autant dans les petites choses. Comment tous les matins il fait Netilat Yadayim, c'est comme ça qu'on voit comment il est. Ah, comment il fait le Shabbat, les grands trucs. Ça, ça peut faire partie des grandes choses, des catégories de l'avoir. Mais les petites choses, c'est toujours des catégories de l'être. Parce qu'il n'y a aucun kavod, il n'y a rien du tout à faire des petites choses. Rien. On peut se vanter devant personne. Et ça ne rapporte rien à personne. À partir du moment où on se livre aux petites choses comme aux grandes choses, c'est donc qu'on essaye de développer les catégories de l'être et non celles de l'avoir. Mais même les catégories de l'avoir, elles peuvent être dans le domaine des grandes choses qui font partie des mitzvot. Ouais.
J'ai deux questions. Une première sur le texte, c'est un petit peu une interrogation. Dans la mesure où les peuples disent qu'est-ce qu'a Dieu, votre Dieu de plus que le nôtre, bon, on serait attendu une réponse en disant il n'y en a pas d'autre. Je veux dire, comment se fait-il qu'on dit bah, le nôtre, il est comme si, sous-entendu, on ne répond pas au fait qu'il n'y en a pas d'autre. Je veux dire. Ça, c'est la première question. Vous voulez que je vous pose la...
C'est ça, il fallait dire. Bon, ok, on voit. Allez-y, la deuxième, on va voir. Ah,
la deuxième question, c'est... vous avez dit qu'il y a l'être, et puis il y a l'avoir qui sont les outils. Si on les utilise mal, on est nos guerres, on atteint l'être qui se rapetissit, qui se détériore. Je veux dire, bon, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, on doit pouvoir l'améliorer aussi. Je veux dire, ça... Ça aurait été intéressant de savoir comment. Puis alors, deuxièmement, ce qui est quand même... Parce que utiliser des outils, c'est quand même une technique. Quoi. Je veux dire, c'est dans la vie des techniques, il y a des doués et des pas doués. Donc il y a des gens qui sont plus.
Il y en a qui sont gauchers, il y a des gauchers.
Il y a des gauchers. Quel que soit, il y en a qui dessinent mieux, il y en a qui font mieux la cuisine, il y en a qui marchent mieux. Quelle que soit la chose qu'on fait, il y a des gens qui sont doués et pas doués. Donc c'est distribué comme ça de manière un peu inégale. Alors.
Ok. Alors je vais reprendre la première question. Hein. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autre Dieu. De dire c'est le seul, il n'y a pas d'autre. C'est bidon. Parce que il n'y a pas de limite aux idées. Donc il n'y a pas de limite à l'idée fausse qu'on peut se faire du bon Dieu. Donc lorsqu'on dit Madoder Midod, ça veut dire que le peuple juif se fait tuer pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, dont on ne voit pas comment il se manifeste. Et ça, on est obligé de dire que les autres n'existent pas, ça ne veut rien dire. Ce qu'on est obligé de définir, c'est comment nous on le perçoit. Donc ce n'est pas tellement les autres, comment ils sont pas, c'est comment nous on perçoit à travers la Torah ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. En ce qui concerne les Kélim, je vais vous dire. Moi, ce qui m'importe surtout dans l'histoire des Kélim, c'est de comprendre que ce sont des Kélim. La façon dont on s'en sert, elle n'est pas tellement importante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans sa vie, il arrive à chacun des expériences, des problèmes qu'on doit résoudre, qui font que, à travers ces kélims-là, on change. Et on sent qu'on change, on n'est plus le même. L'important, ce n'est pas de réussir et de ne pas être gaucher parce qu'on doit faire avec ce kéli ou non. L'important de comprendre, c'est que ce n'est qu'un kéli. Ça veut dire que ce qu'on m'a donné et ce que j'ai, ça doit me servir pour un certain but. Et ce but, c'est d'être un kéli. Comment on manipule le kéli? C'est pas important. C'est pas dans ce sens-là qu'on parle de kélim. On parle de kélim dans le sens de n'attache pas plus d'importance à la voix que le fait qui permet de se déplacer. Mais toi, utilise-le comme un ustensile. Je vous donne un exemple. La Gemara dit que si quelqu'un déchire quelque chose le Shabbat parce qu'il s'est mis en colère, alors elle dit quel est le din, est-ce que c'est Khayab, c'est pas tout, c'est ceci, c'est cela. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle, un type qui se met en colère? La Gemara dit que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il avait plein de Geinam qui étaient... C'est un type perdu. Il se permet des choses qui vont l'enfermer après. Donc, qu'est-ce qu'on vous aime parler d'un type qui se met en colère? Parle de gens dans le bon. La Gemara répond, le Mirme Matéaïn Shelbeté. En vérité, il n'est pas en colère, mais il se met en colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir dire à quelqu'un. On doit avoir une certaine pudeur pour ne pas pouvoir dire à quelqu'un quelque chose en face. On ne peut pas. Alors on fait semblant de se mettre en colère. On utilise la colère. Quand on est en colère, on peut se permettre. Le mirme est matei, aïn chez le bété. Il a des choses à dire chez lui. Mais on ne peut pas descendre quelqu'un. Alors on se met en colère. Et quand on est en colère, on a le droit de dire certaines choses. Ça passe. Et si on n'est pas en colère, assassiner froidement quelqu'un en lui disant ce qu'on pense de lui, ça ne doit pas être possible. Mais quand on se met en colère, c'est possible. Donc la vie, c'est des ustensiles. On doit pouvoir être en colère parce que c'est un ustensile. Jouer tout de suite. Même la joie, on doit l'utiliser comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit être hypocrite ou qu'on doit jouer la comédie. Mais ça veut dire que même dans les choses fines, elles peuvent être des kélim. Parce que les gros kélim, on connaît. C'est la situation, c'est l'argent, c'est le hiro, c'est ce que je sais, le kavol. Ça, on connaît. Mais il y a des choses qui sont plus fines qui sont des kélim. Beaucoup plus fines. C'est pour ça qu'on a dit, même l'intelligence, c'est un kélim. Quelquefois, il faut jouer aux bêtes. Quelquefois, il faut jouer à l'intelligent. Mais même ça, il faut savoir qu'on utilise un kéli. Et que ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas parce que tu es intelligent que tu as gagné grand-chose. Mais on peut gagner ça grâce à l'utilisation du kéli. Donc c'est pas tellement est-ce que tu es capable d'utiliser le marteau et la scie et l'enclume. Le problème, c'est surtout est-ce que tu es capable de considérer que la façon de te déplacer dans la vie, il faut que toi tu sois au-dessus et que tu utilises ça comme un kéli. Parce que ça ne fait pas partie de la catégorie de l'être. Mais seulement de la voix. Ouais.
Oui, moi. Vous avez donné trois barinachi.
Ah, il y en a cinq. Alors vous regardez dans la Gemara, dans le traité de Brachot, page 10, Yud Amud Bet. C'est un peu long là. Ça ne fait pas partie du. Je m'éblique. Ouais.
Oui. Alors, d'abord, au niveau de la des voix, est-ce que finalement, le fait de voir les voix, ce n'est pas voir les conséquences factuelles, juste dans leur plus extrême détail, de ce qui est énoncé dans la voix?
C'est possible, c'est possible. Parce que je vous demandais autre chose. À quoi ça sert de voir les voix? Ça suffit de les entendre.
Non, mais voir les voix, de quelle nature c'est le fait de voir les voix?
Non, vous ne demandez pas de quelle nature. De quelle nature, on n'a pas besoin de savoir, puisque justement, on dit que ce n'est pas naturel.
Oui, non, je parle pas de nature naturelle, je parle de nature de quel est l'état de cette vision.
Je n'ai pas besoin de savoir quel est l'état. Voilà, la signification. Donc c'est possible. Absolument, c'est qu'il y a des choses plus précises qu'on voit et qu'on n'entend pas. Lorsqu'on entend de l'écrit, c'est la lecture de l'écrit. Alors si je peux le voir, l'écrit, c'est plus pratique. Mais comment je vais voir la voix?
Alors,
après, j'ai le contraire aussi.
De voir la conséquence, de voir le...
Là-bas, on parle du contraire, on parle qu'on entend l'écrit et qu'on voit la voix.
Oui.
Entendre l'écrit, c'est déjà très difficile à cerner. Vous comprenez?
Oui.
C'est pour ça qu'il veut dire le Mirta Meliaou, que ce qui a marqué dans la prévologie, on entend l'écrit parce qu'on n'a plus besoin des rouches, on n'a pas besoin des sens. Ça veut seulement vouloir dire que le fait de voir les choses, ce n'est pas important. On peut les connaître autrement. On peut les connaître par les avoir entendus. Les avoir toujours su. Mais pas besoin de les voir. Vous comprenez? C'est ça qui parle.
Mais finalement, est-ce que...
À quelqu'un, on lui demande, t'as vu ou t'as pas vu? Non, ce qui me fait mes certitudes, c'est pas ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu. C'est que j'arrive à le comprendre. Je dis, non, je l'ai pas vu, c'est vrai, je l'ai pas vu. Mais finalement, j'ai fait mieux que voir. J'ai entendu ce que t'as écrit. Tu dis, mais t'es razak, toi, tu entends des lettres? J'ai pas besoin d'entendre des lettres. Ça veut dire que les chouchim, les sens, m'amène des informations qui sont quelquefois en dessous de ce que le moi peut me procurer comme information.
Mais est-ce que c'est dans le domaine du
D'abord, je dis, il y a une curiosité là-bas. Oui, oui, il y a une curiosité là-bas. Pourquoi? Parce que lui dit que l'homme primitif, lorsqu'il s'est fait taper la première fois, il avait pas seulement mal, mais il avait aussi le sens de l'injustice. Et ça, dit Brilat Kvodo du Rav Dessler, c'est pas juif ça. Parce que l'homme primitif, c'est Adam Harishon. Et Adam Harishon, il voyait Misof Aolam Vatsofo. C'est le plus grand navi qui est arrivé. Donc, c'est pas seulement qu'il avait une sensation de. Donc, chez nous, l'homme primitif, ça n'existe pas. Mais ça voudrait dire qu'à l'état primitif, on va dire.
À l'état premier.
On va dire, voilà, Caïn et Avel. Avel, lorsqu'il s'est fait assassiner, à ce moment-là, il n'avait pas seulement l'idée du fait que ça fait mal. Mais il avait l'idée d'une injustice. Qui c'est qui lui a donné cette idée de justice et d'injustice?
Mais est-ce que la notion de justice et d'injustice...
Elle vient de l'Anshama
elle-même. Ce besoin et cette nécessité de reconnexion à un atavisme ultra primordial...
Ouais, voilà.
C'est pas...
Primordial.
Ultra primordial, c'est pas quelque chose qui relève de la perception de la nécessité ontologique.
Ok, alors on appelle ça...
Parce que c'est le domaine de la perception.
Si je l'avais appris, alors j'aurais dit que c'est ontologique. Mais en vérité, je ne l'ai pas appris. Donc, je peux dire que ça vient d'une perception
de la nécessité.
Qui est nécessaire. En soi, elle est nécessaire. Pour la vie. De même que j'ai appris à marcher sans savoir comment j'ai fait pour apprendre, et j'ai l'équilibre sans savoir comment ça se passe, j'ai cette notion-là.
Alors, vous avez dit que la catégorie de l'avoir, on devait la laisser de côté au... profit de la catégorie de l'être. Mais il y a un très grand...
Je n'ai pas dit qu'on devait laisser de côté, j'ai dit qu'on devait l'utiliser et ne pas la confondre.
Ah oui.
Non. Ah non, je n'ai pas parlé de ce côté.
Parce que
si vous laissiez de côté votre talité et votre film. Et alors comment vous allez voir demain?
C'est ça, parce que c'est un moyen absolument
indifférent. Ah bien sûr, je n'ai pas dit.
C'est un moyen absolument...
Mais non, j'ai dit qu'on ne doit pas se définir par ça. Ce n'est pas parce que j'ai acheté une film qui coûte cher
que
je fais mieux la mitzvah de film.
Oui. Ah d'accord.
Oui. C'est bon? Oui. Alors je vais vous dire, c'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'intuition dans le cognitif. Il y a des gens qui ont du sechel, et puis ils ont certaines intuitions que d'autres n'ont pas. C'est du domaine du cognitif. Ça veut dire que c'est du domaine de l'intelligence. On peut reconstituer les notions d'intuition, et vous dire pourquoi ça vient chez celui-là plutôt que chez celui-là. Parce que celui-là, les notions, elles sont plus imprimées et elles sont plus utilisées que chez l'autre.
Est-ce que c'est quelque chose qui donne justement de la naissance?
D'après ce que nous, on sait, c'est du cognitif. Ça veut dire que ça fait partie des sens.
Du
sérel. Maintenant, il y a dans la littérature des intuitions qui peuvent faire partie même jusqu'à la nevoie. C'est un autre domaine de l'intuition. C'est pas dans le domaine de l'intelligence, c'est dans le domaine de la perception. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent dans certaines situations, eh ben c'est comme ça. C'est pas qu'après on arrive à démêler pourquoi ils ont vu et comment, parce qu'ils avaient un tel raisonnement auquel l'autre n'a pas pensé, et lui a pensé. C'est parce que c'est du domaine d'une perception. Mais là, il y a des gens qui vous disent, mais j'y crois pas. On n'est pas obligé d'y croire, on peut vous dire, c'est la littérature, c'est du bidon. C'est difficile à serrer. L'expérience ne va pas. Comprenez ? Prenez un problème de maths. Un problème de maths. Vous prenez deux enfants du même âge, il y en a un par intuition, il vous le résout. Il ne sait pas comment il a fait. Ça, c'est le domaine du cognitif. Si on résout bien, on va arriver à savoir avec quels outils il l'a fait. Mais lorsque quelqu'un il vous dit des choses comme ça, ça peut être du domaine de la nevoie.
Mais est-ce que le...
Comprenez ? On n'appelle pas ça des intuitions, ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que chacun, il doit avoir d'autres mots pour... Il y en a qui vous disent que c'est des perceptions extrasensorielles. C'est déjà une définition. Il a vu, il n'a pas perçu. À lui, c'est voir, il sait entendre. Il, est... il y en a qui entendent de... Bon, qui entendent des voix, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on ne sait pas définir, on est intuitif. Donc, on ne sait pas jongler avec ça. Par exemple, on vous dit, la Gemara dit, il y a les enfants et les fous, c'est des gens qui ont la neuf voix. Pourquoi ? Parce que ils ont des intuitions. Comme ça. Et on est incapable de les... On vous dit, demain il aura un enfant, il vous dit, il est arrivé ça ou demain il arrivera ça. Vous allez dire, ah oui, tu as l'intuition.
Mais l'homme a tendance à ne pas accorder foi à son intuition.
Qu'est-ce que vous appelez ça ? Je vous dis, qu'est-ce que vous appelez l'intuition ? Si vous appelez l'intuition une chose qui n'est pas du domaine du cognitif, moi je ne connais pas la définition. Parce que c'est pas clair, vous comprenez, de la télépathie. On a résolu que c'était la télépathie, mais avant, on pouvait dire que c'était l'intuition. Vous comprenez ? Le type ne savait pas d'où ça lui venait. On appelle intuition des notions qui vous viennent comme ça, sans rigueur. Alors, je ne sais pas moi ce que c'est.
Mimi.
Un jour, on va peut-être résoudre le problème. On va vous dire, non, vous avez une certaine perception qui fait que... Ta, 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 ta. Aujourd'hui, par exemple, la télépathie, c'est un phénomène qu'on commence à connaître. Il y a des règles. Il y a des normes.
Est-ce que vous considérez que l'homme doit notamment s'attacher à cette intuition-là, ou est-ce qu'il doit...
Je ne sais pas, ça c'est cas par cas qu'il faut voir. Je vous dis encore une fois... Je ne sais pas, parce que ça dépend quelle intuition. Je vous dis encore une fois, il y a des gens qui vous disent, je suis sûr que quelque chose va se passer. C'est le domaine du rêve peut-être, on ne sait pas ce que c'est. Moi je ne crois pas qu'il faut faire trop attention. Mais alors si ça lui arrive souvent, le gars...
Si ça marche.
Si vous pouvez me mettre en... Il y a des gens qu'on a intérêt à connaître, des gens qui ont des intuitions en bourse. Ouais.
Pourtant, il y avait des écoles de prophètes. Et ces écoles de prophètes apprenaient la prophétie.
Non.
Et à partir du moment...
Ils apprenaient à écrire la prophétie ou la déterminer. Ils n'apprenaient pas à être prophètes. Les écoles de prophètes, ça veut dire que c'était des gens qu'on canalisait, c'était des gens à qui on enseignait la Torah, c'était des gens qui avaient la prophétie. Mais ce n'est pas des gens à qui on apprenait en disant en 3 ans, vous avez la prophétie numéro 1 après. Ouais.
Dans chaque être humain, il y a un peu de prophétie.
Sûrement. Humain a un peu de prophétie. Mais ça, c'est une chose qu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas catégoriser ces choses-là. Ce que nous, on sait de l'intuition, c'est qu'il y a une intuition du domaine du cognitif, ça veut dire du domaine du logique. Qu'il y a des gens qui appliquent, sans s'en apercevoir, des règles tout à fait logiques qu'on peut démonter. Et d'autres ne savent pas les appliquer. Ça, oui. Cette intuition, on peut en parler. L'autre, on ne sait pas d'où ça vient. Top.
Ouais.